La restriction de nos libertés à travers le confinement pendant plusieurs semaines est une expérience dont nous n'avons pas l'habitude. Et sans doute, pour la plupart d'entre nous, qui n'avons pas vécu la guerre, l'occupation d'une armée ennemie, c'est la toute première de ce genre. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme le dit pourtant avec force. Toute personne a le droit de circuler librement. Alors notre consentement, plus ou moins fort, à cette limitation de notre liberté, c'est une forme d'échange. En face d'un danger, ces derniers temps celui de la pandémie, nous acceptons de faire un échange. Nous acceptons momentanément de limiter notre pouvoir personnel, celui d'aller et de venir, de nous déplacer sans contrainte, parce que le risque est trop grand, le prix serait trop cher à payer. Pourtant, certains considèrent que leur liberté passe avant le risque. C'est le cas de ce jeune homme, condamné par le tribunal pour avoir enfreint 9 fois la règle du confinement. Impossible de se restreindre, impossible d'accepter, de se soumettre. Ma liberté, avant toute chose, ma liberté. C'est ce que chantait Georges Moustaki. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ce même Georges Moustaki, qui disait dans une forme de poème, 17 ans, et prendre encore le temps de refuser le monde organisé, et faire à l'heure présente un aujourd'hui qui chante. 17 ans, et vivre à chaque instant ses caprices d'enfant, ses désirs exigeants. Ces désirs exigeants. Combien il est difficile d'admettre que nous ne sommes pas tout-puissants. Et pourtant, combien c'est important de le reconnaître. Le pédiatre Aldo Nauri déclarait qu'un individu dont la toute-puissance infantile n'a pas été jugulée par l'éducation continue à l'âge adulte à vivre dans l'angoisse, l'individualisme et l'obsession. Quelle toute-puissance veut donc exprimer ce jeune homme qui brave 9 fois l'interdit? Quelle conception a-t-il de la liberté, de sa liberté? Pour commencer ce matin, posons-nous premièrement cette question à nous-mêmes. Quelle conception avons-nous de la liberté? C'est une question centrale dans nos vies. Acceptons-nous d'avoir des limites? Le récit de la chute dans le livre de la Genèse est éclairant de ce point de vue. C'est le récit du non-consentement aux limites. Dans son dialogue avec le serpent, la femme rend compte de la consigne de l'Éternel Dieu. Le fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Les adeptes de la liberté totale et absolue diront comment c'est un scandale d'interdire et pourquoi juste cet arbre, alors que tout est accessible dans ce jardin, que tout est possible. Pour les tenants d'une liberté absolue, il manque encore quelque chose pour que la liberté soit vraiment parfaite. Supprimer l'interdit. Le dernier interdit. « Il est interdit d'interdire », disait un slogan anarchiste en 68. Or, derrière cette revendication de liberté totale, la volonté de toute puissance n'est pas loin. Et c'est sur ce ressort que joue la réponse du serpent. « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Cela signifie, vous serez tout puissant. Le serpent ne dit pas autre chose. Ce récit de la chute, dans le livre de la Genèse, c'est donc le récit de notre consentement ou non, aux limites, et c'est intimement lié au combat qui est le nôtre avec ce désir de la toute-puissance. Ce qui devait être un accès à la liberté suprême, dans la promesse du serpent, c'est-à-dire d'être à l'égal de Dieu, va aboutir au contraire à une catastrophe, au confinement dans une condition d'homme et de femme qui n'était pas le projet de Dieu pour sa création. Cela va aboutir au rétrécissement de la perspective de départ, aboutir à la perte de liberté en définitive. C'est notre deuxième point ce matin. Nous vivons une condition humaine confinée. Insistons là-dessus, nous sommes en tant que créatures confinées. Confinées depuis bien plus longtemps que nous ne le pensons dans notre condition humaine, dans une façon de penser déformée. Notre humanité se bat toujours avec cette volonté de toute puissance, de liberté sans limite. Eh oui, c'est une question qui est terriblement actuelle. Nos moyens technologiques, notre maîtrise scientifique, rendent possible tout ce que nous n'imaginions pas précédemment, pour le meilleur et pour le pire. Le tout dernier exemple, le projet d'Elon Musk, le milliardaire, d'envoyer 10 000 satellites autour de la Terre. Il y en a à peine le quart aujourd'hui. C'est possible, mais est-ce souhaitable pour autant? Autre exemple, le développement des armes biologiques. J'ai bien dit des armes biologiques. Ce développement est aujourd'hui tout à fait réalisable techniquement. Est-ce souhaitable pour autant? Là encore, nous sommes à nouveau devant l'arbre dans le jardin, à nous demander pourquoi ne pas goûter le fruit de cet arbre, puisque je peux le faire. Autre exemple encore. Tous les jours, les alertes écologiques se répètent pour démontrer l'inimitié que nous avons installée entre nous et le monde animal, entre nous et le monde végétal, entre nous et nos semblables sur notre planète. Nous savons aujourd'hui que nous épuisons nos ressources naturelles, que nous allons dans le mur, au point de rechercher les moyens de déménager sur Mars pour espérer trouver une planète de rechange. Là encore, nous sommes confinés dans une manière de penser, enfermés dans une vision qui est une fuite en avant, plus de liberté, pour plus de puissance, plus de puissance, pour plus de liberté, etc. Aujourd'hui, alors que se profile dans les jours qui viennent, la perspective d'une reprise progressive de l'activité de nos sociétés humaines. Sommes-nous aussi certains qu'elle va déboucher sur une remise en question de nos vieux schémas? Mais revenons au récit de la Genèse. Celui-ci, au-delà de la liberté revendiquée et du désir de toutes les puissances qu'il met en évidence, et qui marque encore aujourd'hui notre humanité, nous dit quelque chose d'encore plus important. Car il est aussi le récit de la confiance rompue. Et c'est notre troisième point ce matin. La confiance rompue. Le plus important dans le récit de la Genèse, c'est la rupture du lien qui reliait le Créateur à la création. On passe de l'harmonie au chaos, de la liberté à la contrainte, de la confiance à la défiance. C'est toute la relation qui est altérée entre Dieu et les hommes, ainsi qu'entre les hommes eux-mêmes. Dieu devient étranger, hommes et femmes deviennent concurrents, voire ennemis. Pour rendre notre humanité à peu près viable, il faut alors inventer des règles, écrire des lois, menacer, punir, car l'utilité du droit dans nos sociétés humaines sert principalement à cela. Limiter la violence dont nous sommes capables, empêcher que le plus fort domine sur le plus faible. Les règles et les lois dans nos sociétés sont le triste signe que s'il n'y a pas de limite, c'est la violence qui règne. et la confiance s'est donc évanouie. L'harmonie n'existe plus, sauf dans des films publicitaires pour des vacances lointaines dans des îles de rêve où nous pensons retrouver le paradis perdu. Savez-vous, en passant, que la Polynésie française connaît un taux de violence intrafamiliale supérieur au taux national? Alors, un paradis, vraiment? Oui, le lien de confiance est rompu, et nous essayons de le rafistoler avec des lois et des règles pour vivre entre nous comme nous pouvons. Et que dire enfin de la confiance en nous-mêmes? Qu'est-ce qui peut nourrir cette confiance en nous-mêmes? Est-ce que le fait de braver 9 fois le confinement pour le jeune homme dont nous parlions tout à l'heure est un signe de sa confiance en lui-même? N'est-ce pas plutôt le signe inverse, d'une impuissance à sortir de son unique schéma, comme nous? On nous parle souvent au sortir du déconfinement du monde d'après, celui qu'il va falloir faire advenir, car nous aurions compris tellement de choses à travers la situation inédite que nous venons de vivre. Nous sortirions de cette expérience en quelque sorte renouvelés, prêts à réinventer un monde différent, vertueux, respectueux de l'environnement, ayant redécouvert la richesse des rapports humains. La Fédération protestante de France a récemment demandé au président de la République de tirer les leçons de cette expérience du Covid-19 en soulignant tout ce qu'il faudrait modifier pour la préservation du climat, pour plus de solidarité envers les plus pauvres, pour la transformation du rôle de l'économie, afin qu'elle soit davantage au service des hommes et non l'inverse. Tout ceci est important, et il faut le dire. C'est le rôle de l'Église d'avertir les puissants. Sommes-nous si certains, cependant, que notre bonne volonté collective suffise à bâtir le monde d'après, sur de bonnes bases? Allons-nous retrouver tout seul le chemin du jardin d'Éden et le cultiver comme avant, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé entre nous et le propriétaire de ce jardin? Nos aspirations sont compréhensibles. Nous avons le souvenir lointain comme une trace dans notre mémoire de notre condition de créature de Dieu, créée pour être libre, dans une création pensée pour nous, où nous avions notre place, pleine, entière, avec toutes les autres parties prenantes de celle-ci, végétaux, animaux. Nous aimerions retrouver cet état que nous trouvons normal en quelque sorte, mais il y a quelque chose à réparer avant. Écoutons l'extrait d'un psaume de la Bible. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Qui parle ainsi? Celui qui parle, c'est le roi David. Après avoir séduit et couché avec la femme d'un de ses soldats. Soldat qu'il a envoyé se faire tuer dans une bataille militaire, ensuite, pour s'en débarrasser. Peu glorieux comme épisode de la vie de David. Ce personnage biblique particulièrement connu s'est battu toute sa vie avec cette question de la confiance. Tour à tour porté par sa confiance en Dieu, puis capable de toutes les bassesses. À chaque fois, il lui a fallu revenir, et combien de ses chants, de ses psaumes, sont des appels au secours. Des appels à retrouver la relation perdue avec son Dieu. Et c'est notre quatrième et dernier point aujourd'hui. Rétablir la confiance. Confinés à la maison depuis bientôt 2 mois, nous n'aspirons qu'à retrouver une pleine liberté de mouvement. Confinés dans notre condition humaine, nous sentons bien aussi que notre liberté n'est pas totale. Mais nous sentons aussi que l'absence de limites, ça n'est pas la liberté. C'est la loi du plus fort sur le plus faible, le non-respect de notre planète et de ses équilibres, la domination du plus riche sur le plus pauvre. La liberté, nous la voulons, mais nous savons aussi quel mauvais usage nous pouvons en faire. Alors, où est la porte de sortie ? Elle se situe dans le rétablissement du lien avec le Créateur, dans la confiance retrouvée, dans notre renoncement à notre désir fou de toute puissance. Le choix de la rupture, le choix de l'indépendance, selon le récit de la chute, est un choix de l'homme. Et c'est un choix qui a des conséquences. Il mène en fait à un exil, une séparation. Il mène à une pseudo-liberté, qui est en fait une solitude. Il débouche sur la violence entre les hommes, chacun pouvant justifier de sa violence par l'usage de sa liberté propre. Tout cela, c'est un piège sans fond. Face à cela, Jésus indique la porte de sortie. Si le Fils vous a franchi, dit-il, vous serez réellement libre. C'est une réponse qui est faite à des Juifs qui se déclarent de leur tradition, de leur appartenance à une postérité de croyants. Mais cette appartenance, si elle les réconforte, ne suffit pas à les rendre heureux. Elle ne débouche pas sur la liberté. Ce que leur propose Jésus, c'est d'envisager une autre relation à Dieu, de retrouver le chemin vers le Père et de traduire à nouveau dans la réalité ces 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, versets 28 à 31. Simple en apparence. Mais il y a une condition préalable. Reconnaître que nous avons besoin d'être déconfinés d'abord. Reconnaître que c'est nous qui nous enfermons tout seuls dans notre désir d'indépendance, qui est en fait un refus du Créateur, un dos tourné, une attitude qui suffit à elle-même, à définir un mot que l'on ne comprend plus aujourd'hui, le péché. Reconnaître enfin que le premier pas pour renouer la relation, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est Dieu qui s'est mis à notre niveau, avec Jésus, le Christ devenu homme, pour nous déconfiner. Amen.